La revue de presse de Nicolas Martin. Bonjour, bonjour Nicolas. Ce matin, le marteau et l'enclume.
Et oui, voilà donc où nous en sommes rendus, coincés entre le marteau et l'enclume. Et ça cogne assez dur en ce moment, hein, entre un mouvement social gangréné par une poignée de casseurs qui commettent des violences inacceptables, un gouvernement incapable de faire respecter l'ordre et qui envisage sérieusement d'interdire les manifestations, un manifestant grièvement blessé à la nuque par un tir tendu de grenade qui lui a fracturé les vertèbres, le tout sur fond de nouvelles attaques terroristes qui a coûté la vie à deux policiers, de combats de rue apocalyptiques entre hooligans à proximité des stades de foot, ce qui vaut cette une aux Parisiens aujourd'hui en France. Dans quel monde vit-on? Tandis que la Croix se demande pourquoi tant de violence. Mathieu Verrier résume ainsi la situation dans son édito dans La Voix du Nord. La République est arrivée à un point où l'équilibre entre liberté et sécurité vacille. Une démocratie peut-elle interdire une manifestation? Une telle expression sociale peut-elle tolérer de telles violences à sa marge? Les jeux de posture et des calendriers ont mené à l'inévitable incident de trop. Sécurité et démocratie ont été affaiblis avant toute interdiction. Guillaume Goubert dans La Croix essaye lui aussi de temporiser, de prendre un peu de hauteur. Prenons garde aux effets de loupe, écrit-il. La violence en marge des manifestations n'est pas une nouveauté en France, mais elle est aujourd'hui beaucoup plus visible. Les équipes de reporters sont nombreuses et plus encore les images prise par les téléphones portables des manifestants et des badauds. La violence n'est pas non plus l'apanage des manifestations syndicales. Le gouvernement ayant envisagé hier de ne plus autoriser les manifestations, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, a eu beau jeu de dire qu'à ce compte-là, il faudrait interdire l'Euro de football en raison des rixes entre supporters. Il n'empêche, on ne peut pas ne pas réagir au franchissement de certains seuils, poursuit Guillaume Goubert. Et en effet, les déprédations, hein, ce mot qui a étrangement ressurgi dans le champ lexical de multiples éditos ce matin, ce saccage, pourrait-on dire plus simplement, de la façade de l'hôpital Necker des enfants malades est insupportable. Pour autant, la plupart des éditorialistes, à de rares exceptions près, font appel à la raison. En plaçant sous pression la CGT, le Premier ministre a saisi l'occasion des déprédations des casseurs sur la façade de l'hôpital Necker pour enfoncer un coin entre mouvement social et opinion, écrit Bernard Stéphan dans La Montagne. Mais attention à ne pas ouvrir la porte à des mesures liberticides mises en cause de l'état de droit et des principes républicains. Le défi est lancé à l'état démocratique. Les organisateurs de la manifestation ne peuvent pas être tenus pour responsables, écrit toujours Guillaume Goubert. Ne confondons pas autorité et autoritarisme, pour Jean-Claude Souléry de la Dépêche du Midi. Avant que d'en arriver à la prohibition, il y a de l'espace pour des mesures qui respectent le droit de manifester calmement et la manifestation du droit à la sécurité. Ou encore Laurent Geoffrin dans Libération, autant la sanction des déprédateurs est justifiée, autant la menace d'une interdiction générale de manifester est exagérée. Ce serait faire porter au mouvement social, quoi qu'on pense par ailleurs de ses buts, la responsabilité d'agissements qui ne sont pas de son fait. La violence antidémocratique ne doit pas faire reculer la démocratie.
Bon, mais alors dans quel monde vit-on, mon bon monsieur?
Ah, je ne vous le fais pas dire, hein. C'est pour répondre à cette épineuse question que Le Parisien, aujourd'hui en France, a convoqué dans ses pages 10 témoins pour, à défaut de remettre de l'ordre dans la rue, essayer de remettre un peu d'ordre dans nos têtes. Vous pourrez lire les opinions, entre autres, de Boris Cyrulnik, Claude Almos, Jean-Christophe Ruffin ou Yann Arthus-Bertrand. Nous sommes percutés par une vague de violence qui suscite une interrogation à la fois candide et fondamentale, écrit Donna Vidal-Revel dans son édito. Dans quel monde vivons-nous? Ce moment de notre histoire est peut-être l'occasion de chercher à réaffirmer nos valeurs, selon lui. Au lendemain de l'épreuve de philo, nous pouvons mettre au goût du jour ce qu'a écrit Thomas d'Aquin il y a 800 ans. Ce n'est pas l'identité des pensées qui fera notre concorde, mais l'identité de nos volontés. Je vois Arnaud Montebourg qui approuve. Alors, je vous le disais hier, hein, si on accordait de l'importance à la philosophie plus qu'un jour par an pour l'épreuve du bac, le monde serait peut-être un peu moins laid. Heureusement qu'il y a des nouveaux chemins de la connaissance tous les jours à 10h sur France Culture. Tenez, même Paul-Henri du Limbert convoque ce matin Machiavel dans son édito dans le Figaro pour commenter l'actualité. Je n'ignore pas que beaucoup ont pensé et pensent encore que les choses du monde sont gouvernées par Dieu et par la fortune et que les hommes, malgré leur sagesse, ne peuvent les modifier et n'y apporter même aucun remède. En conséquence de quoi, on pourrait penser qu'il ne vaut pas la peine de se fatiguer et qu'il faut laisser gouverner le destin. laisser gouverner le destin. Toute comparaison avec un président de la République en exercice ne serait pas purement fortuite, selon l'éditorialiste. Alors, dans quel monde vit-on ? Eh bien, je vais vous en donner deux aperçus qui devraient vous faire réévaluer à la hausse vos prises quotidiennes d'anxiolytiques. On vit dans ce monde-là. Tenez, je vous l'ai apporté, je vous ouvre Libération, la double page. 49 visages, 49 portraits. 49 victimes du terroriste Omar Mateen, tué par balle le week-end dernier à Orlando. On a vu hier à la une des journaux, je vous en parlais, hein, le visage des deux policiers brutalement assassinés à Magnanville. Voici donc celui des victimes d'Orlando, publié aujourd'hui sur une double page dans Libération. Des jeunes d'une trentaine d'années, surtout des hommes, des étudiants, quelques parents, écrit Libé, une majorité de latinos, communauté très représentée à Orlando, beaucoup de portoricains, quelques cubains, trois mexicains, des groupes d'amis venus draguer ou danser dans un lieu sans préjugés où se mêlaient dans un esprit bon enfant, gay, lesbienne, transgenre, hétérosexuel, drag queen. Et si vous tournez la page, vous apprendrez que les services belges sonnent l'alarme. Selon une note révélée par le quotidien La Dernière Heure, des combattants auraient quitté la Syrie il y a environ une semaine et demie afin de rejoindre l'Europe via la Turquie et la Grèce en bateau, sans passeport. Ces personnes seraient déjà en possession de l'armement nécessaire et leur action serait imminente. Les djihadistes seraient, selon l'article, séparés en deux groupes, un pour la France, un pour la Belgique. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bon courage aux camarades bacheliers qui vont plancher aujourd'hui sur leur épreuve d'histoire géo et rappeler avec Montesquieu, cité par le Figaro, qu'il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire. Vous avez 4 heures.